Il est 10h sur France Culture, les nouveaux chemins. Raphaël Enthoven, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins. Suite et milieu, ce mercredi matin d'une semaine sur Marx dans les nouveaux chemins de la connaissance, une semaine réalisée par Christine Robert avec aujourd'hui Claude Courtois à la technique et Georges Kless à la lecture des textes. Après le Marx d'André Tozel et l'idéologie allemande expliquée aux enfants que nous sommes par Isabelle Garraud, c'est du jeune Marx que nous allons parler aujourd'hui, de Marx avant Marx, du Marx d'avant ce qu'Althusser appelle la coupure épistémologique. Et c'est en compagnie du philosophe hegélien Jean-François Kervégan que nous allons fouiller les racines essentiellement hegéliennes de la pensée de Marx. Marx et la philosophie de Hegel ou d'Hegel, c'est selon, c'est le sujet du jour. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit, c'est l'opium du peuple. Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple, exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. L'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la vérité de la vie présente. Et la première tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, consiste, une fois démasquée l'image sainte qui représentait la renonciation de l'homme à lui-même, à démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. Bonjour Jean-François Kervégan, bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. On sait peu que le texte fameux que je viens de lire, hein, « La religion comme l'opium du peuple », l'un des textes de Marx les plus connus, est extrait de sa contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est un texte de 1843, c'est-à-dire qui remonte avant ce qu'a fait Althusser, on a appelé la coupure épistémologique, la distinction entre le premier et le second Marx. On va revenir sur cette coupure épistémologique. Et avant cela, évoquer les liens de Marx avec la philosophie de Hegel qu'il s'est attaché à commenter tout au long de cette première période de son travail. Quelle est la part, Jean-François Kervégan, pour partir d'une question bien vaste, la part de Hegel dans Marx? Comment, de façon peut-être plus précise, le penseur matérialiste de la Révolution s'est-il accommodé et inspiré du conservateur spéculatif qu'était son ancêtre?
Alors, je ne poserai peut-être pas exactement la question dans ces termes-là, c'est-à-dire que le conservatisme spéculatif, en tout cas, ce n'est pas seulement ainsi que Marx a vu Hegel, mais on y reviendra sans doute. Il est certain, en tout cas, que Hegel a accompagné Marx, qui n'a pourtant pas été son étudiant. Il l'a manqué de peu, si je puis dire, à cause du choléra.
Rappelons que Hegel est mort du choléra en 1830.
31.
31, bravo.
31, novembre 31. Et Marx est arrivé à Berlin, je pense, en 1936.
Mais, 1836.
1836.
Voilà, allons-y.
Donc, la lecture de Hegel... Lecture que, dans une lettre à son père, je crois, Marx se dit, dès 1839, être intégral. On est obligé de le croire sur parole, et de fait, il en administre la preuve. Cette lecture a accompagné Marx tout au long de sa vie, mais, bien entendu, en particulier, elle est très présente dans ses travaux de jeunesse. Alors, ses travaux de jeunesse, bon... Je passe rapidement sur sa thèse de doctorat, premier travail seul travail véritablement universitaire.
Sur Démocrite et Épicure.
Exactement, sur Démocrite et Épicure. Mais après cela, on peut dire que Marx va entreprendre un face-à-face, enfin va se trouver dans un face-à-face extrêmement sérieux avec Hegel pour la raison suivante, je pense. Marx se situe alors, comme la plupart de ceux que l'on appelle les jeunes hegeliens, sous l'influence de Feuerbach. Feuerbach, dont les écrits parus dans les années 1830, donc, ont une influence considérable, et notamment parce qu'il développe une critique du christianisme. Et Marx, c'est un lapsus que je vais faire plusieurs fois.
C'est un bon lapsus, oui, allez-y.
Marx va entreprendre de se démarquer de Feuerbach en s'appuyant sur Hegel. Ça, on le voit très clairement déjà dans le texte que vous avez cité tout à l'heure, qui est en fait l'introduction qu'il a rédigée à un livre qu'il n'a jamais écrit et qui eût été une critique de la philosophie du droit de Hegel. On n'en a que le brouillon, qu'il avait d'ailleurs écrit avant cette introduction. Et dans cette introduction, où il y a ce fameux passage sur
l'opium
du
peuple,
la
religion comme opium du peuple,
dans cette introduction, Marx écrit la chose suivante. La critique du ciel est achevée, ce qui veut dire il n'y a rien à rajouter à ce qu'a dit Feuerbach sur cette question, en montrant que la religion est une illusion, mais une illusion nécessaire d'une certaine manière, dans la mesure où elle est une projection, disons en termes psychanalytiques, de ce que l'homme est, qu'il projette dans ses idéaux religieux. Il faut donc passer, et ça c'est son propre programme, à la critique de la Terre. La critique de la Terre, quelle forme va-t-elle prendre? Eh bien, pense-t-il alors, une critique de la philosophie politique dominante, qui est celle de Hegel. Et c'est pourquoi il projette d'écrire ce commentaire critique des principes de la philosophie du droit de Hegel, dont il ne nous reste qu'un brouillon, d'ailleurs partiel. C'est un travail d'ailleurs absolument génial, la critique du droit politique hegelien. Enfin, ce texte n'a pas de titre, donc ce sont les éditeurs qui choisissent un peu arbitrairement un titre. Il s'agit en fait d'un commentaire ligne à ligne d'une bonne partie de la section « État » des principes de la philosophie du droit de Hegel, de 1820. Et dans ce texte, on voit très bien, dans ce commentaire, on voit très bien comment Marx s'emploie à définir sa position par opposition à Hegel, mais aussi toujours en rapport étroit avec lui. Et notamment, il s'appuie sur la logique de Hegel, qu'il connaît très bien, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et il s'appuie également, bien sûr, sur cette philosophie politique et sur une de ses innovations principales, qui est la distinction entre État et société civile.
Jean-François Kervégan, est-ce qu'en posant, on va revenir sur ce qu'implique la critique de Hegel, derrière le détail essentiel de l'histoire des idées, mais est-ce qu'en en posant d'emblée que le critique de Hegel est à cet égard tributaire de Hegel, est-ce que vous ne faites pas vous-même une lecture hegelienne de la démarche qui est celle de Marx dans un système hegelien qui, pour le résumer de façon très, très grossière, je parle sous votre contrôle, mais un système qui intègre finalement ses propres contradictions comme autant de moments de son déploiement, est-ce que d'un point de vue strictement hegelien, on ne peut pas considérer que quiconque critique Hegel se détermine par conséquent par rapport à lui et en d'autres termes ne peut pas s'en affranchir?
J'accepterai assez volontiers ce jugement et j'accepterai aussi que l'on puisse y objecter précisément qu'il s'agit d'une lecture hegelienne. Cela dit, il me semble qu'une telle lecture peut se prévaloir d'appuis textuels extrêmement nombreux et pas seulement chez le jeune Marx, mais aussi chez le Marx que l'on appelle de la maturité. Il suffit par exemple de lire cet énorme manuscrit qu'on appelle les Grundrisse, qui sont en fait le brouillon du Capital, qu'il rédige en 1857-1858, il suffit de lire ce texte pour voir qu'il est absolument truffé de vocabulaire et, plus important, de conceptualité hegelienne. Marx, et d'ailleurs il le dit lui-même dans la postface de la deuxième édition allemande du Capital, qui est un texte très tardif, 1800, juste avant sa mort, enfin pour ainsi dire, il dit lui-même qu'il a éprouvé le besoin de s'appuyer sur Hegel. Pourquoi? Eh bien, lorsque, il me semble, que la raison est la suivante. Lorsque Hegel s'aperçoit que son véritable programme n'est pas de critiquer la philosophie du droit de Hegel, comme il l'a d'abord cru, mais plutôt de critiquer cette science toute nouvelle qui est, pour ainsi dire, le langage de la société civile bourgeoise en voie de développement.
En somme, ce qu'il critique, c'est la lecture qui en est faite déjà. Oui. Ce qu'il critique, c'est pas Hegel, c'est l'hégélianisme ambiant.
C'est l'hégélianisme ambiant. Et puis, donc, lorsqu'il se donne le programme à partir de ce qu'on appelle les manuscrits parisiens ou manuscrits de 1844, d'entreprendre une critique systématique de l'économie politique, cette science nouvelle qui, disait Hegel, fait honneur à la pensée, et qui est, pour ainsi dire, la langue naturelle de la société civile, ou bourgeoise, c'est le même mot en allemand, en voie de développement, eh bien là, il s'aperçoit qu'il a besoin de Hegel pour se démarquer du langage et de la conceptualité des économistes. Donc, le rapport à Hegel est essentiel à la fois pour lui permettre de définir son lieu propre, et plus tardivement aussi, pour s'assurer d'une conceptualité qui soit, et elle l'est, je crois, radicalement distante de celle du courant dominant de l'économie politique classique.
Tout au long de la semaine sur Marx, on est à mi-chemin aujourd'hui, mais on va continuer à se poser cette question toute la semaine. On pointe avec nos différents invités, que ce soit André Tozel, Isabelle Garraud, ou vendredi en particulier avec Lucien Sève, puisque l'émission a déjà été enregistrée. Tout au long de la semaine, on va s'interroger sur la place qui est faite à l'homme dans l'œuvre de Marx, plus qu'à l'homme en vérité, au sujet. La question du sujet. De quelle marge d'action dispose le sujet dans l'œuvre d'un homme dont tout le travail consiste justement à inscrire nos actions dans les déterminations qui les portent à être ce qu'elles sont. Quelle est la place de la volonté humaine? Quelle est la place également de la souffrance ou de la douleur dans ce système-là? Et à pointer le paradoxe de l'œuvre de Marx, qui est à la fois extraordinairement attentif à la douleur, à la souffrance des hommes et à l'aliénation des individus, et qui en même temps ne cesse de donner le sentiment qu'il va dissoudre toute conscience singulière dans un ensemble plus vaste et rappeler chaque individu à la condition finalement de rouage qui est également la sienne. Est-ce que cette tension chez Marx entre une ambition systématique d'inscrire chaque individu dans un système plus vaste et en même temps l'attachement propre sensible à la douleur des hommes qui souffrent. Est-ce que cette tension marxiste, on la retrouve chez Hegel, ou est-ce qu'il n'emprunte à Hegel que l'intuition du caractère foncièrement historique et rationnel de toute réalité, selon vous, Jean-François Kervégan?
C'est une question difficile. Je pense, pour vous répondre aussi brièvement que possible, que...
Prenez votre temps, hein. On a du temps pour ça, c'est important, allez-y.
Je pense que ce que l'on appelle, ou ce que l'on a appelé l'humanisme de Marx, qui a d'ailleurs fait l'objet de discussions, on y reviendra sans doute, je pense que l'humanisme de Marx, pour dire les choses brutalement, ne vient pas de Hegel.
Et... Parce que Hegel a quand même dit « les souffrances se perdent dans le but général comme les ruisseaux se perdent dans le fleuve hein. ». Il y a chez Hegel une méconnaissance, enfin une méconnaissance délibérée de la douleur singulière individuelle qu'il dialectise dans un déploiement qu'il engendre.
Les passions humaines sont à l'insu de ceux qui les éprouvent.
Mobilisées par la raison.
Mobilisées par la raison dans une dialectique historique, c'est vrai. Mais peut-être encore plus fondamentalement, disons que la structure même du système hegelien, qui a comme cœur la science de la logique, implique une autre conception de la subjectivité que la conception humaniste. Je dirais que, pour Hegel, le sujet, c'est d'abord un problème logique, logico-grammatical, avant d'être un problème subjectif et humain. Et cela, Marx, le très grand lecteur et très fin lecteur de la logique hegelienne, ainsi que du reste son œuvre, en a tiré d'une certaine mesure la leçon. Je dirais que l'humanisme de Marx et du jeune Marx, il vient plutôt de Feuerbach, précisément. Ce concept d'essence humaine qui est central dans les manuscrits parisiens, dans les manuscrits de 1844.
Et puis la place cardinale qu'il accorde à l'idée d'individu. Absolument. Chez Marx, tout commence et tout finit par l'individu.
J'allais y venir, justement, dans l'idéologie, au début de l'idéologie allemande. Je reviens rapidement sur ce texte dont il a été question hier. Marx répète à plusieurs reprises que son discours n'est pas sans présupposition, mais il n'a qu'une présupposition, c'est l'existence d'individus réels qui sont des animaux travailleurs, des animaux susceptibles, capables, ce qui marque leur singularité par rapport aux autres animaux, de produire eux-mêmes leurs propres moyens d'existence.
Individus non solubles dans un
système. Il le répète 2-3 fois dans les premières pages.
Individu, c'est-à-dire indivisible, c'est-à-dire non soluble.
Absolument, absolument. Il y a la seule présupposition, en tout cas d'après ce texte de Marx, il ne parle pas de classe sociale, comme on s'y attendrait, etc. Non, les individus. Les individus en tant que producteurs, l'homme en tant qu'animal laborant, en tant qu'animal susceptible de, en travaillant, de produire ses moyens d'existence. Donc il y a véritablement une, et c'est une différence incontestable avec Hegel, une attention extrême apportée à l'individu. Au moins, au point de départ de la pensée de Marx, on peut penser qu'ultérieurement, cette attention soutenue à l'individualité sera, non pas disparaîtra, mais sera, disons, médiatisée, excusez-moi d'employer un vocabulaire hegélien, par la nécessaire prise en considération des rapports entre forces sociales, entre classes sociales. Mais tout cela se fera à partir du moment où la conceptualité définitive de Marx, dont il nous offre un impressionnant résumé dans la préface de la Contribution à l'économie politique de 1859, ce texte où on voit apparaître les concepts majeurs de mode de production, force productive, rapport de production, superstructure, etc., etc., la base économique, enfin, c'est l'exposé canonique de ce que l'on appelle, à tort ou à raison, le marxisme. Tout cela n'est pas encore présent, ou présent en tout cas de cette manière systématique, dans l'idéologie allemande. Et c'est peut-être pour cela que, encore une fois, l'individu y a une place centrale, ce qui, bien sûr, offre un appui extrêmement sérieux aux lectures dites humanistes ou non structurales de Marx, telles que celles que vous avez invitées Lucien Sèvres, que Lucien Sèvres avait développé dès les années 60, au cours d'une polémique fameuse avec Louis Althusser.
Oui, l'ambition de Lucien Sèvres qu'on va recevoir vendredi, c'est effectivement d'insister sur l'humanisme de Marx, sur la dimension humaine de Marx, sans d'ailleurs le faire toujours au détriment de son ambition systématique. Le travail de ce point de vue de Lucien Sèvres est un travail de très grande ampleur. Hein. Il faut le signaler. Lucien Sèvres sera notre invité avec Jean-Marie Arribé vendredi prochain. Mais alors, j'en reviens à ce qu'on se dit là, Jean-François Kervégan. S'il faut reconnaître à Marx une dimension irréductiblement humaniste dans les premiers écrits, on va se demander d'ailleurs si cette dimension disparaît complètement au-delà, est-ce que le fait de reconnaître cela n'avère pas les lectures, alors pour le coup, puisqu'ils sont d'accord au moins une fois dans l'histoire des idées, c'est important de le dire, les lectures marxistes, enfin la lecture que propose de Marx à la fois Althusser et Raymond Aron, c'est-à-dire une lecture qui distinguerait de façon radicale, finalement, autour de 1845, en gros, un premier Marx, plus sensible à ce qu'il a sous la main, si j'ose dire, d'un deuxième Marx, dont l'ambition plus systématique, alors là, pour le coup, l'emporterait vers une rationalité souveraine. Est-ce que vaut finalement cette lecture à partir du moment où on prend acte d'un humanisme chez Marx, hein, Jean-François Kervégan, selon vous?
Personnellement, j'ai longtemps accepté comme une sorte d'évidence, mais c'est pour des raisons, je dirais, historiques, les thèses de Louis Althusser, qui m'a formé, pour ainsi dire, et dont l'enseignement et les écrits ont déterminé pendant longtemps ma compréhension de Hegel, de sorte que j'admettais comme une vérité incontestable les thèses fameuses d'Althusser développées pour Marx au début des années 60, et notamment cette thèse de la coupure épistémologique, vous y avez fait allusion tout à l'heure, qui séparerait, donc c'est un concept que Althusser emprunte à Bachelard et à son maître Canguilhem, coupure épistémologique entre un jeune Marx humaniste et feuerbachien et le Marx de la maturité, qui aurait rompu avec cet humanisme, entendons bien, Althusser est très clair là-dessus, c'est une rupture théorique, c'est-à-dire que le Marx de la maturité pratiquerait un anti-humanisme théorique, lequel, évidemment, n'implique aucun anti-humanisme pratique. Il ne faut pas voir, évidemment, dans cette thèse, une sorte de justification des usages ultérieurs et proprement glaçants qui ont été faits de la référence au marxisme. Donc pendant longtemps, j'ai accepté comme évident...
Ça c'est quand même très amusant de remarquer. Hein. Ça, c'est la thèse d'Althusser et c'est également la thèse de Raymond Aron.
Voilà, simplement, moi, je ne lisais pas Raymond Aron à cette époque parce que ça ne se faisait pas.
Ou alors, on le lisait en cachette.
Dans le milieu des étudiants en philosophie, à peine quand même. Dans les années 1970, on ne lisait pas cela. Et effectivement, c'est plus tardivement que lisant, notamment lorsqu'on l'a édité, le texte des cours que faisait Raymond Aron sur Marx, j'ai été frappé du parallèle entre ces deux lectures. J'ai été frappé aussi, je le dis au passage, par la remarquable intelligence et précision de la lecture d'Aron, qui vraiment avait très bien compris, si je puis dire, beaucoup de choses à la pensée de Marx. Bon, et de ce point de vue, il y a un parallélisme. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, je me sens plus proche d'une analyse ou d'une hypothèse continuiste. Je ne crois plus trop à la coupure épistémologique. Et ce qui m'a conduit à cela, c'est moins l'influence de Lucien Sèvres, qui là aussi, à laquelle j'ai relativement échappé lorsque j'étais étudiant, et c'est plus tard que j'ai découvert l'importance de ses écrits et l'originalité de ses écrits. C'est vrai que ses écrits avaient été un peu étouffés par la présence envahissante et encombrante de Louis Althusser. Mais ce qui m'a conduit à mettre en cause l'hypothèse althussérienne, c'est précisément, si j'ose dire, ma culture ou mon fond culturel hegelien. J'étais venu, je dois le dire d'ailleurs, à Hegel par Marx. Et puis, je suis resté là où Marx m'avait conduit, à Hegel. Et l'attention soutenue que j'ai eue ensuite à la présence complexe, hein, c'est certain, mais la présence quand même de Hegel dans Marx, tout au long de son œuvre, de son travail, est une des raisons qui m'a conduit à relativiser cette hypothèse ou cette thèse de la coupure.
La thèse de la coupure. Alors, on va voir ce qui est continu, peut-être, dans l'œuvre de Marx. Est-ce l'ambition systématique ou est-ce peut-être, d'ailleurs, l'attachement à la souffrance des hommes? Qu'est-ce qui permane dans l'œuvre de Marx? Vous en êtes venu, vous avez dit, à Hegel par Marx. Marx lui-même en est venu à Marx par Hegel. En termes hegeliens, ça s'est passé comme ça. Reste à savoir dans quelle mesure il en a été tributaire. On va entendre un texte dans lequel, un extrait du Capital, donc un texte Marx, deuxième période, dans lequel Marx, un texte que ne désavouerait aucun humaniste, je pense, dans lequel Marx revient sur le commerce de chair humaine, précisément. Écoutez.
L'industrie cotonnière date de 90 ans. En trois générations de la race anglaise, elle a dévoré 9 générations d'ouvriers. À vrai dire, dans certaines époques d'activité fiévreuse, le marché du travail a présenté des vides qui donnaient à réfléchir. Il en fut ainsi, par exemple, en 1834. Mais alors, messieurs les fabricants proposèrent aux Poor Law Commissioners d'envoyer dans le Nord l'excès de population des districts agricoles, déclarant qu'ils se chargeaient de l'absorber et de le consommer. C'était leur propre parole. Des agents furent envoyés à Manchester avec l'autorisation des Poor Law Commissioners. Des listes de travailleurs agricoles furent confectionnées et remises aux susdits agents. Les fabricants coururent dans les bureaux et, après qu'ils eurent choisi ce qui leur convenait, les familles furent expédiées du sud de l'Angleterre. Ces paquets d'hommes furent livrés avec des étiquettes comme des ballots de marchandises, et transportés par la voie des canaux ou dans des chariots à bagages. Quelques-uns suivaient à pied, et beaucoup d'entre eux erraient, çà et là, égarés et demi-morts de faim dans les districts manufacturiers. La Chambre des communes pourra à peine le croire, ce commerce régulier, ce trafic de chair humaine, ne fit que se développer, et les hommes furent achetés et vendus par les agents de Manchester aux fabricants de Manchester tout aussi méthodiquement que les nègres aux planteurs des États du Sud. L'année 1860 marque le zénith de l'industrie cotonnière. Les bras manquèrent de nouveau. Et de nouveau, les fabricants s'adressèrent aux marchands de chair. Et ceux-ci se mirent à fouiller les dunes de Dorset, les collines de Devon et les plaines de Wills. Mais l'excès des populations était déjà dévoré. Le Bury Garden se lamenta. Après la conclusion du traité de commerce anglo-français, s'écria-t-il, 10 000 bras de plus pourraient être absorbés, et bientôt il en faudra 30 ou 40 000 encore. Quand les agents et sous-agents du commerce de chair humaine eurent parcouru à peu près sans résultat en 1860 les districts agricoles, les fabricants envoyèrent une députation à M. Villiers, le président du Poor Law Board, pour obtenir de nouveau qu'on leur procurât, comme auparavant, des enfants pauvres ou des orphelins des workhouses.
Jean-François Kervégan est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Nous sommes à mi-chemin d'une émission qui elle-même est à mi-chemin d'une semaine sur un auteur, Karl Marx, qui est à mi-chemin de Hegel et du XXe siècle. C'est de la question de l'hégélianisme de Marx que nous parlons aujourd'hui avec vous, Jean-François Kervégan, de la question de savoir si Marx est resté hégélien au-delà de ce qu'Althusser s'est rappelé la coupure épistémologique, et finalement, derrière cela, de la question de savoir dans quelle mesure on peut avoir l'ambition d'une compréhension globale ou d'une explication globale des choses, sans pour autant dissoudre la personne singulière dans cette tentative d'explication globale. Le texte qu'on vient d'entendre, interprété par Georges Claes, se trouve dans le Capital, dans la troisième section du Capital. Il parle des workhouses, hein, les orphelins des workhouses. On a un Marx qui s'oppose à l'absorption des enfants, évidemment, à l'esclavage, qui compare ça à la traite négrière, qui s'oppose de façon même plus générale à la réduction de l'individu à un chiffre, à une étiquette. Est-ce qu'on trouve, Jean-François Kervégan, chez Hegel, un texte équivalent à celui-là? Ou est-ce que ça, c'est une, j'allais dire, une valeur ajoutée ou une valeur ôtée du marxisme par rapport au système hegélien?
Je pense que non. Mais avant, je reviens Allez-y. Rapidement sur ce texte magnifique et parcouru par un frémissement d'indignation. Des textes comme cela, on en trouve beaucoup dans l'œuvre de Marx. Je relisais par hasard hier un texte, un passage où il parle et avec la même indignation contenue de la prostitution féminine dans la classe ouvrière britannique. Et il dit, vous savez comment dans le langage des ouvriers on appelle ça la 11e heure de travail. C'est l'heure ou les heures que fournissent les femmes pour compléter la paye, en quelque sorte. Et bon, il n'y a pas de commentaire, mais on sent Marx véritablement porté par une indignation. C'est ce que Althusser appelait l'humanisme pratique.
L'humanisme pratique, c'est-à-dire ?
Alors, humanisme pratique, c'est-à-dire une attention profonde, vivante et politique aussi à la souffrance humaine et la volonté d'apporter des remèdes, qui sont des remèdes politiques, à cette souffrance. Pour autant, alors, vous me demandiez, trouve-t-on la même chose chez Hegel ?
En somme, est-ce que cette objection, est-ce que la présence d'une indignation, l'indignation n'est pas soluble dans un système ? On peut considérer du point de vue d'un système que celui qui s'indigne finalement est myope, se retrouve comme chez Leibniz, hein, celui qui voit le mal dans la création de Dieu, c'est celui qui voit mal, parce qu'il ne voit pas l'ensemble dont le mal apparent n'est qu'un élément. Toute ambition systématique comme celle de Hegel et avant celle de Leibniz témoigne de la volonté de dissoudre finalement l'indignation. Est-ce que l'indignation n'est pas le caillou dans le jardin de Hegel et ce qui, plus encore que la question des fins de l'histoire dont on va parler, Jean-François Kervégan, et ce qui, pour le coup, malgré tout, sans les séparer, scinde l'hégélianisme de Marx, hein.
Je ne sais pas, parce que précisément, ce qui me semble intéressant chez Marx, c'est que l'indignation, chez lui, appelle le système. Parce que c'est cette indignation qui mobilise son attention, et c'est elle qui le conduit à consacrer toute son œuvre à quoi ? Pas à faire des bonnes œuvres. Après tout, avec l'argent de son ami Engels, ils auraient pu faire des bonnes œuvres. Non, se consacre-t-il à l'action politique ? Certes, mais surtout parce qu'il considère que c'est le meilleur remède à apporter à la situation qu'il indique, à l'écriture, donc à ce que vous avez appelé au système. Marx ne renonce jamais, il en mourra, à la rédaction de ce système dont le capital, je parle de l'œuvre qui porte ce titre et qui est, comme on le sait, inachevé, dont le capital est cette arme de guerre, dit-il, contre la bourgeoisie, dont le capital est l'instrument. Il me semble qu'en cela, Marx demeure profondément hegelien. Il pense que la théorie, le système, on ne peut jamais s'en passer.
Néanmoins, que le point de départ, est-ce qu'on peut alors marquer une différence qui serait que d'un côté, Hegel retrouverait finalement l'indignation comme un moment du système, alors que Marx partirait d'elle pour justifier la nécessité du système, qu'en somme le point de départ de Hegel, ce qui justifierait d'ailleurs l'une des critiques que Marx formule à l'endroit de Hegel, c'est finalement que Hegel part du ciel pour aller vers la terre, part de la théorie pour en retrouver les éléments dans la réalité, alors que Marx s'attacherait lui à partir de la réalité pour ensuite lui donner une forme plus systématique, s'inspirant par la même de Hegel.
Cela peut être vrai si l'on ne se souvient que du dernier Hegel, du Hegel du système. Mais après tout, si on prend en considération l'évolution de l'individu Hegel lui-même, les premiers textes de Hegel sont des textes d'indignation. D'indignation contre une situation politique, celle de l'Allemagne, celle de... si on lit le texte de jeunesse qu'il n'a pas publié, qui s'appelle « La Constitution de l'Allemagne », c'est un livre de révolte contre une situation, disons, la décadence du Saint-Empire, qui lui semble scandaleuse. De même, il a traduit en allemand un texte d'un républicain suisse destiné à exiger la mise en place d'institutions démocratiques, etc. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, il y a une certaine proximité.
Mais est-ce qu'Hegel est hegelien quand il écrit les textes que vous citez ?
Pas encore pleinement.
Voilà, c'est ça.
Donc, pas plus que Marx n'est pleinement encore marxien lorsqu'il écrit les textes de jeunesse qu'il consacre notamment à commenter Hegel. C'est incontestable.
Ainsi, amour, depuis ta dernière lettre, je me suis tourmentée avec la peur que, à cause de moi, tu pourrais être entraînée dans une querelle, puis dans un duel. Nuit et jour, je te voyais blessée, ensanglantée et malade, et pour te dire toute la vérité, je n'étais pas complètement malheureuse à cette pensée. Car j'imaginais vraiment que tu avais perdu la main droite. Et, Karl, j'étais dans un état de ravissement, de bonheur, à cause de cela. Tu comprends ? Amour, je pensais que dans ce cas, je pourrais vraiment te devenir indispensable. Tu me garderais toujours avec toi et tu m'aimerais. Je pensais aussi que je pourrais alors transcrire toutes tes chères et divines idées et t'être vraiment utile.
Mon cœur bien-aimé, je t'écris parce que je suis seul et que cela me trouble toujours de dialoguer avec toi sans que tu le saches ou l'entendes ou que tu puisses me répondre. Si mauvaise que soit ta photo, elle me rend ce service, et je comprends maintenant comment les plus hideuses effigies de la Mère de Dieu, les Vierges Noires, peuvent trouver d'infatigables admirateurs. Aucune de ces images n'a été plus embrassée, plus regardée et adorée que ta photographie, laquelle ne reflète absolument pas ta chère, tendre, adorable, dolce figure. Mais mes yeux, si abîmés qu'ils soient par la lumière et le tabac, peuvent encore peindre non seulement en rêve, mais éveillés. Je t'ai, éclatante, devant moi. Je te touche et t'embrasse de la tête aux pieds. Je tombe à genoux devant toi et je gémis. Madame, I love you. Je vous aime en vérité, plus que le mort de Venise n'a jamais aimé. Mon amour pour toi, sitôt que tu t'éloignes, m'apparaît pour ce qu'il est. Un géant qui absorbe toute l'énergie de mon esprit, toute la substance de mon cœur. Je me sens de nouveau un homme parce que j'éprouve une grande passion. Voilà une petite parenthèse rose dans une émission rouge. En votre compagnie, Jean-François Kervégan, c'est la correspondance entre Karl Marx et sa femme, l'aristocrate Jenny von Westphalen. Histoire d'amour folle, histoire d'amour véritable, un amour authentique. Ils se sont mariés, ils ont souffert ensemble infiniment et ils ont été heureux ensemble. Enfin, c'est vraiment la femme de sa vie. Et ce qui est intéressant ici, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que l'Hegelien que vous êtes en pense, mais il est intéressant d'observer que dans la lettre qui date de 1840 de Jenny à Karl, qui a été lue par Coco Bonnier, dans cette lettre, elle lui dit « j'imagine que tu as perdu la main droite et ça me ravit parce que je pourrais alors me rendre véritablement utile », ce qui en termes hegeliens d'ailleurs est assez compréhensible, n'est-ce pas, parce qu'un malheur produit un bonheur en un sens, on pourrait penser qu'il y a une dialectique, en l'occurrence ici, de la perte de la main droite à l'utilité de Jenny. Est-ce que Jenny, finalement, ne serait pas plus hegelienne que Karl, lequel, en 1856, dans la lettre que j'ai lue ensuite, lui répond « Je me sens de nouveau un homme parce que j'éprouve une grande passion », phrase qui, là encore, peut être lue sous le prisme hegelien. Qu'en pensez-vous, Jean-François Kervégan ?
Alors, je vais essayer de dire ce que j'en pense. Je ne suis pas sûr d'être hegelien comme vous m'avez fait l'honneur de me définir. En tout cas, si je suis un hegelien...
Si vous vous en défendez, c'est que vous l'êtes encore plus, dirait Hegel.
En tout cas, pas absolument orthodoxe. Et beaucoup d'hegeliens plus orthodoxes me contesteraient cette qualité. Mais qu'importe, ce n'est pas, on n'a pas à se définir soi-même. J'ai trouvé cette lettre de Jenny von Westphalen, que je ne connaissais pas, très belle. Et la réponse... Enfin, la réponse...
16 ans plus tard.
16 ans plus tard.
Mais c'est la même chose.
Oui. Dans la lettre de Jenny, ce qui est remarquable, c'est qu'elle... Bon, elle identifie bien l'ennemi. Son ennemi à elle, c'est moins les autres femmes que le travail de la pensée. Et c'est pour ça qu'il... S'il n'avait plus de main droite, il ne serait plus collé à sa table de travail pour écrire Le Capital ou d'autres choses comme cela. Et donc, il serait plus à elle. Mais bien sûr, elle ne veut pas non plus qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, alors, tout cela, la question est toujours, Marx est-il en cela, cette attention à la souffrance des autres et à ses propres émotions ou à celles de sa compagne, est-il en cela non hegelien ? S'il y a un philosophe qui a entrepris de réhabiliter la passion, c'est bien justement Hegel.
Au motif, dit Hegel, que rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion, mais cette réhabilitation hegelienne de la passion n'est-elle pas également une façon d'employer de faire de la passion l'ancillaire de la raison ?
Ah ça, alors c'est toute une discussion, mais je n'en suis pas certain. Le plus beau texte de Hegel là-dessus, c'est la dernière page de son écrit de jeunesse qui s'intitule « Foi et savoir ». Et dans cette dernière page, Hegel entreprend de comparer, enfin de penser le travail du concept dans les termes de... enfin, à partir de l'image de la mort de Dieu. Et de la mort de Dieu, du Christ sur le Golgotha. Et il emploie cette expression extraordinaire pour qualifier ce qu'il appellera plus tard la négativité. Le négatif est là, du côté des passions. Eh bien, il se réfère à la passion du Christ et il parle de vendredi saint spéculatif. Le vendredi saint spéculatif, c'est la négativité, c'est, si l'on veut, alors la passion. Donc la passion, elle est irréductible comme le négatif est irréductible. Mais ça, on est chez Hegel et pas chez Marx.
On est chez Hegel et pas chez Marx, mais en même temps, il y a aussi peut-être chez Marx, c'est ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans le texte sur l'opium du peuple, il y a aussi peut-être chez Marx l'ambition à la fois de faire la généalogie de nos représentations célestes et des représentations dans lesquelles l'homme s'enferme, et faisant cette généalogie, de rabattre, de replier finalement le ciel sur la terre au profit du sens que l'homme ou les rapports de production donnent à l'histoire. De ce point de vue, Marx, pour le coup, est authentiquement hegelien, non ?
Tout à fait. Et en vous écoutant, je pensais à une phrase de Marx que je vais lire, qui me semble tout à fait extraordinaire. C'est une phrase qui est extraite d'un texte fameux, là aussi, même s'il n'a pas été publié. C'est l'introduction de 1857. À un des brouillons du Capital, mais c'est un des textes les plus fameux de la tradition marxiste. Dans ce texte, on trouve la phrase suivante. Seul le monde saisi dans le concept est en tant que tel le monde réel. Cette phrase est de Marx.
Oui, c'est étonnant, c'est parce qu'on pourrait la trouver sous la plume de Hegel,
absolument,
évidemment.
Absolument.
Hegel qui a écrit « Tout réel est rationnel, tout rationnel est réel hein, ».
Et donc, il prend cela entièrement à son compte, pour précisément dire que le monde n'est intelligible que par le travail du concept ou de la pensée, et que c'est là qu'il fait la fameuse distinction sur laquelle Althusser a beaucoup écrit, la différence entre le concret et le concret de pensée, et la nécessité d'en passer par le concret de pensée, qui n'est pas le concret empirique, pour penser le concret empirique. Donc il y a, ça m'a amené parfois à dire qu'il y avait chez Marx, y compris le dernier Marx, un véritable idéalisme, quelles que soient ses professions de foi en faveur du matérialisme, et ça montre aussi d'ailleurs ce qu'a peut-être de sommaire ou de limité l'opposition convenue entre l'idéalisme et le matérialisme. Il y a un idéalisme de Marx au sens où Marx pense que le travail du concept, pour parler à la manière de Hegel, est le seul accès possible à la réalité. Et en cela, ça, si vous voulez, l'attention à la souffrance, l'indignation face aux souffrances des hommes ne peut pas se suppléer ou suppléer ce travail du concept que lui-même a entrepris tout au cours de sa vie.
Mais en même temps, les textes d'indignation de Marx, pour en revenir un instant là-dessus, Jean-François Kervégan, ces textes où Marx s'indigne, comme l'œuvre du militant d'ailleurs, comme l'action du militant. Certes, ces textes sont programmatiques, l'action relève d'une intention chez lui, mais enfin, il n'y a pas de médiation entre ce qu'il indigne et ce qu'il décrit quand il le décrit. Quand il parle des orphelins, des workhouses, il n'est pas dans un... il n'y a pas de médiation du concept. Il n'y a, en un sens, finalement, aucun besoin du concept. Ce que je veux dire, c'est que derrière cela, est-ce que Marx n'apporte pas, lui qui disait « je ne suis pas marxiste », est-ce que Marx n'apporte pas un démenti, j'allais dire, en amont des applications qui seront faites de son œuvre et d'éventuels dévoiements de son œuvre, en particulier dans les régimes qui se sont inspirés de lui? Est-ce que Marx ne devance pas toute tentative de faire advenir une société sans classe, quels que soient les moyens d'y parvenir, finalement, et au prix, en particulier, de vies humaines?
Certainement, enfin, si l'on veut dire par là que Marx n'aurait jamais pu imaginer les souffrances...
C'est ça que je voulais dire.
...qui allaient s'autoriser, mais...
S'autoriser de lui.
De lui, oui. Mais enfin, bon, c'est tellement formel, je veux dire, le rapport qui peut exister entre la pratique du stalinisme au pouvoir et la pensée de Marx me paraît tellement lointain que, la critique va de soi. Je pense effectivement que chez Marx, bon, là, comme on l'a dit, cette indignation n'a jamais été abandonnée. Elle fait partie d'un fond humaniste. Mais en même temps, je crois aussi qu'il est convaincu que seul le travail du concept permet de penser véritablement cette situation abominable faite aux orphelins des workhouses, et qu'il faut penser cela, car le penser, c'est le seul moyen de le supprimer.
Vous avez parlé de Staline tout à l'heure, Jean-François Kervégan. On va entendre la voix de Lénine dans Les Chemins de la Connaissance. Il est 10h43 sur France Culture. Nous sommes en octobre 2009 et c'est la voix de Lénine, chers auditeurs, que vous allez entendre écouter.
Марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1954 по 1972 год. Поражение геройских парижских рабочих, знаменитой парижской коммуны, означало конец этого интернационала. Он незабываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент того здания Всемирной Социалистической Республики, которое мы имеем теперь счастье строить. Второй интернационал существовал с 1989 по 1914 год до войны.
Спасай, когда ты нам не ловишь, и без мира.
Au mois de mars 1917, s'est tenu à Moscou le Congrès international des communistes. Ce congrès a fondé la troisième internationale communiste, l'union des travailleurs du monde entier tendant à instaurer le pouvoir soviétique dans tous les pays. La première internationale, fondée par Marx, a existé de 1864 à 1872. La défaite des travailleurs héroïques de la célèbre Commune de Paris mettait fin à cette internationale. Elle est inoubliable, elle est éternelle dans l'histoire de la lutte des ouvriers pour leur libération. Elle a posé les fondements de l'édifice de la République mondiale que nous avons maintenant le bonheur de construire. La deuxième internationale a existé de 1889 à 1914 jusqu'à la guerre. Voici ce que disait Lénine, donc, au moment de la création de la troisième internationale en mars 1917, avec un accent épouvantable d'ailleurs. Jean-François Kervégan, il faudrait en venir quand même, puisqu'on arrive au terme de cette émission, il faudrait quand même en venir ou au moins évoquer la question des finalités de l'histoire. Hegel est le penseur d'une histoire ordonnée selon un but. Il y a une téléologie historique dans l'œuvre de Hegel. Est-ce qu'on peut dire cela, d'une part? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut dire que Marx a retenu ce schéma-là et qu'il a justifié finalement les interprétations presque eschatologiques, messianiques de son propre travail après lui?
Alors, s'agissant d'abord de Hegel, je rappelle quand même quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'expression « fin de l'histoire » ne se trouve pas chez Hegel.
Non, elle n'est pas chez Hegel, absolument.
Elle n'est pas chez lui, mais bon, l'idée incontestablement y est. Les cours de Hegel sur la philosophie de l'histoire et la partie de son encyclopédie qui en traite développent l'idée selon laquelle l'État moderne, disons l'État européen, est le point d'aboutissement de l'histoire en tant qu'histoire politique, du moins. Car elle pourra se continuer sur d'autres terrains. Donc, en ce sens, oui, il y a bien une fin de l'histoire. Et Hegel écrit, par exemple, et ça, enfin, dit, par exemple, que l'histoire va de l'Est à l'Ouest. Et que ça, c'est quelque chose de fondamental. La fin de l'histoire, ben, ça serait, par exemple, cette extension de l'Europe que seraient les États-Unis d'Amérique, alors à l'état natif, disons. Tout cela me semble tout à fait acceptable. Alors, en ce qui concerne Marx, les choses sont moins claires. Bien sûr, il y a la théorie du communisme, mais c'est là que nous avons beaucoup de mal et qu'il faudrait pourtant faire la différence entre ce que dit Marx, ce qu'il a écrit, et les reconstructions, rationalisations ultérieures dans le cadre de ce qui allait devenir l'enseignement du marxisme-léninisme, du marxisme d'abord, puis du marxisme-léninisme. Ici, il faudrait faire un travail, je ne suis pas capable de le faire, d'ailleurs, d'histoire des doctrines, en montrant le rôle qu'a joué Engels dans peut-être une certaine dogmatisation, disons, de l'enseignement de Marx. Moi, ce qui me frappe toujours quand je lis Marx, c'est que c'est une pensée qui est constamment ouverte, qui jamais ne s'achève en un point. Alors, bien sûr, il y a ce telos de la société sans classe, du communisme, mais les traits en restent chez Marx totalement indéterminés. Il faudra attendre Lénine, précisément, pour que le communisme, comme idée, et malheureusement sans doute aussi pas seulement comme idée, accède aux traits que nous lui avons connus.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Un grand merci Jean-François Kervégan d'être venu au Nouveau Chemin de la Connaissance pour parler du rapport entre Hegel et Marx, de la question de savoir si Marx était l'héritier de Hegel et de quelle façon l'était-il. Autant de questions essentielles où l'histoire des idées recouvre des préoccupations contemporaines, des questions essentielles. Tiens, je renvoie notamment d'ailleurs au livre de Louis Althusser « Pour Marx » avec un avant-propos d'Étienne Balibar aux éditions de La Découverte, très intéressante à ce sujet.
Je ne suis pas fier de ça. Keep
Je renvoie également évidemment à notre site internet pour trouver en ligne une bibliographie de vos travaux, Jean-François Kervégan.
Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner.
Et je renvoie l'auditeur également à la lecture du hors-série du Point sur Marx, très utile, dans lequel se trouvaient notamment les deux lettres d'amour que nous avons lues tout à l'heure. Et enfin, pour notre plus grande joie, je renvoie l'auditeur désormais, comme tous les jours à 10h50, au journal des Nouveaux Chemins de la Connaissance. La parole est à Adèle Van Redt. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
De Marx à Rabelais.
Oui, de Rabelais, on parle de l'humanisme et du juste milieu au siècle de Rabelais. Essai de critique illusoire, c'est le titre d'un essai de Tristan Vigliano qui est paru aux éditions Les Belles Lettres le mois dernier. Bonjour Tristan Vigliano.
Bonjour.
Le juste milieu, c'est une moyenne qu'il convient de chercher entre deux extrêmes qu'il faut éviter. Un exemple canonique de cela, du juste milieu, c'est le courage, par exemple. Le courage qui occupe une position intermédiaire entre deux vices opposés. D'un côté, la lâcheté, qui est un défaut de courage, et de l'autre, la témérité, qui serait un excès de courage. Donc le juste milieu, c'est la médiété, la sophrosyné, telle que la nomme Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, mais c'est également un thème central, majeur, à la Renaissance, que l'on désire atteindre ce juste milieu ou au contraire que l'on tente d'y échapper. Et votre livre, Tristan Vigliano, présente les implications éthiques de la recherche du juste milieu à la Renaissance à travers des figures telles qu'Érasme, Marguerite de Navarre ou encore Rabelais. Alors Tristan Vigliano, si vous avez choisi de vous intéresser à cette notion de juste milieu à la Renaissance, c'est qu'elle est très présente dans l'activité intellectuelle de l'époque, notamment après la redécouverte d'Aristote. Alors qu'est-ce que ces représentations du juste milieu dans les œuvres de l'esprit de la Renaissance, du siècle de Rabelais, nous apprennent sur la pensée des humanistes?
D'une certaine façon, on a l'impression que l'humanisme, chez ces auteurs que vous avez cités, c'est perpétuellement la recherche de ce juste milieu. Et peut-être, d'une certaine façon aussi, n'y a-t-il pas d'humanistes qui cherchent à s'en écarter? Peut-être contrairement à ce que vous disiez. Je crois que tous le recherchent, à leur manière différente, en constatant la difficulté de le faire, d'y parvenir. Et c'est parfois ce qui fait l'éminente dignité de l'homme et leur humanisme, justement. Humanisme à nos yeux.
Donc ils recherchent tous ce juste milieu, mais certains posent que cette quête est possible, qu'on va effectivement
oui.
atteindre ce juste milieu,
oui.
et d'autres posent qu'elle est impossible.
Oui. Pour certains, en effet, Rabelais, Marguerite, Érasme, il semble que le juste milieu n'existe pas et que pour cette raison, il faille le chercher.
Alors comment on comprend ça? Pourquoi est-ce qu'il faut chercher quelque chose qui n'existe pas?
Eh bien parce qu'on constate ainsi les limites de sa raison. On humilie finalement son orgueil, mais joyeusement en passant d'un extrême à l'autre. Et on trouve là un exercice spirituel auquel ces écrivains se sont adonnés pendant toute leur carrière. Je crois parce que, par exemple, c'était des anciens moines, des moines défroqués pour certains, ou relevés de leurs vœux, et qui, par conséquent, cherchaient d'autres formes plus amusantes, d'une certaine façon, de mortification, des mortifications vivifiantes. Passer toujours d'un extrême à l'autre, n'être jamais ailleurs que partout.
Alors pour comprendre cette recherche du juste milieu, il faut évoquer Aristote, qui est fondamental dans cette quête du juste milieu. Il faut rappeler que dans la première moitié du XVIe siècle, Aristote exerce sur la pensée morale une hégémonie qui paraît à l'époque, en tout cas, inébranlable. Tout le monde commente Aristote. Il y a beaucoup de commentaires scolastiques autour de l'œuvre d'Aristote, et notamment autour donc de l'Éthique à Nicomaque, qui est l'ouvrage dans lequel Aristote présente la vertu qu'il qualifie lui-même de juste milieu. Est-ce que vous pouvez présenter en quel sens c'est cette pensée d'Aristote-là qui va avoir une influence sur l'humanisme?
Vous savez, Aristote, depuis le Moyen-Âge, depuis, disons, le XIIe siècle, c'est l'auteur par excellence, c'est celui qu'on appelle le philosophe. Et l'Éthique à Nicomaque, comme vous le disiez, est étudiée par les classes de licence. On ne peut pas avoir sa licence sans avoir étudié l'Éthique à Nicomaque. Il faut donc en passer par cette étude du juste milieu.
C'est-à-dire que tous les auteurs que vous citez ont lu Aristote et l'ont étudié.
Ah oui, ils ont tous lu Aristote, ils le connaissent très bien. Ils l'ont commenté à un moment ou à un autre de leur carrière. Et même indépendamment des auteurs que vous avez cités, on pourrait parler par exemple de Luther, qui commence son œuvre par un commentaire de l'Éthique à Nicomaque, qui va fonder son anti-aristotélisme virulent, mais enfin c'est bien parce qu'il le connaît qu'il peut le critiquer.
la notion de juste milieu est surtout présente dans l'art, dans l'écriture, c'est ce que vous montrez. Oui. Mais pas seulement, on la trouve aussi en médecine ou dans le domaine juridique. En médecine, par exemple, vous montrez que l'autorité principale, l'autorité médicale principale à l'époque, c'est Galien, oui. Le médecin grec, qui prône une doctrine qui est proche de l'aristotélisme puisqu'il parle de tempérament comme d'un juste milieu. Et dans le domaine juridique également, l'éthique à Nicomaque d'Aristote présente le juge comme une incarnation vivante du moyen terme.
Est-ce que vous savez, Adèle, quand commence la quête du juste milieu?
Je dirais 1494.
Oui, mais pour un individu. Elle commence dans l'utérus. Un utérus doit n'être ni trop humide, ni trop sec pour que l'enfant puisse y trouver sa place. Le juste milieu commence au début de la vie, finit. La quête du juste milieu commence au début de la vie, finit à son extrême fin, on n'en sort jamais. On le voit partout, le juste milieu est partout à l'époque. Et on a même un petit peu l'impression que c'est la difficulté de fonder théoriquement cette notion, de le trouver, car après tout, les limites entre le juste milieu et les extrêmes ne sont pas si simples que ça à trouver, que c'est cette difficulté qui, par une sorte de compensation visuelle, fait qu'on veut le voir partout.
Justement, ce juste milieu, qu'est-il réellement? Est-ce que c'est un juste milieu pour nous, pour celui qui aborde ce juste milieu, ou y a-t-il un juste milieu en soi?
Ah, alors, justement, la pensée des scolastiques va consister à prouver que le juste milieu existe en soi. Alors, ils font ça à coups de droite, de demi-droite, de segments de droite, à longueur de page.
C'est-à-dire qu'on a recours à des modèles géométriques et arithmétiques pour essayer de définir ce qu'est le juste milieu.
Pour le démontrer. Et à la fin, on en revient toujours à une bonne vieille sentence d'Horace qui dit « Il existe des bornes certaines ». Comme si justement la raison était incapable de fonder l'existence du juste milieu. C'est ce que j'appelle un déni rationaliste.
Incapable de le fonder, mais pourtant on en reconnaît l'existence.
On en reconnaît l'existence, pour certains, en se réfugiant dans les autorités, parmi les autorités, car Aristote nous dit « Le juste milieu doit être recherché, et pour le trouver, il faut se demander comment le déterminerait l'homme prudent, le sage. » C'est-à-dire que l'argument d'autorité est fondé pour des siècles et des siècles, au moment même où on définit le juste milieu dans l'éthique à Nicomaque.
Merci Tristan Villano, c'est passionnant de vous entendre. Je renvoie l'auditeur notamment au chapitre sur Rabelais, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler plus précisément. Donc Humanisme et juste milieu au siècle de Rabelais, essai de critique illusoire, et c'est paru aux éditions Les Belles Lettres le mois dernier.
Sinon, les minuscules extases, vous vouliez nous parler du livre de Denis Grosdanovitch.
Oui, les minuscules extases, c'est un titre aussi beau à lire que difficile à prononcer, du dernier livre de Denis Grosdanovitch, qui est un ancien professionnel du tennis et champion de squash, qui a abandonné les raquettes et pour l'écriture il y a plusieurs années maintenant. Alors après son petit de désinvolture et son art difficile de ne presque rien faire, l'auteur poursuit son exploration des petits plaisirs quotidiens. Alors ça ressemble un peu à La première gorgée de bière de Philippe Delerme, mais c'est écrit à la première personne et composé à partir de souvenirs personnels, et souvenirs d'ailleurs souvent culinaires. Si j'en crois le titre de tous les chapitres, on a gaufres, cassoulet, vodka, figues, chocolat et j'en passe, sandwich, pizza, et ça continue. Donc voilà, c'est le genre de thème abordé dans ce livre, les minuscules extases, j'ai du mal à le dire, de Denis Grosdanovitch, et ça paraît aux éditions Nil.
C'est noté, merci Adèle, c'est formidable, hein, Grosdanovitch, ça se lit aussi facilement que délicieusement, il faut lire Denis Grosdanovitch. On en sort identique à ce qu'on était avant d'y entrer, c'est très réconfortant. Marx, Rabelais, Hegel, Grosdanovitch et le juste milieu dont on ne sort jamais, c'était le programme des nouveaux chemins de la connaissance. Une émission que vous pourrez retrouver comme les autres sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins où vous trouverez également la liste des textes cités dans l'émission, tout comme la bibliographie de notre invité du jour, Jean-François Kervégan. Notre invité, j'aurais dû dire nos invités, Tristan Villano, également sera présent sur notre site internet. On retrouvera votre livre « Humanisme et juste milieu au siècle de Rabelais ». Suite demain de cette semaine sur Marx, c'est tout simplement du Capital que nous vous parlerons en compagnie de Gérard Duménil. Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une émission préparée tous les jours par Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Mathilde Unger, Romain Villet, Vanina Mozzi-Conacci. Il est 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.